Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Cette petite table, bosse, ton pouce, il se retourne, un homme grand, fort, cheveux gris, chemise à carreaux et pantalon gris. L'homme lui dit, donne-moi ce que tu as pris. Eric, la gorge serrée, lui tend le CD. Il lui dit,
vous n'allez pas me donner à la police, monsieur. J'ai rien fait de mal. J'ai pris pour manger.
L'homme lui dit, nous verrons. Tu sais, on se connaît tous les deux. Tu ne vois pas?
Eric le regarde bien et lui dit, non, monsieur.
L'homme lui dit, je t'ai sucé une fois. Deux rues derrière la piscine. Tu ne vois pas?
Oui.
Moi, je t'ai bien reconnu, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te suffit pas, ce que tu fais?
Eric ne dit rien.
L'homme lui dit, moi, j'ai beaucoup aimé ce que nous avons fait. Je te veux pas mal, tu sais. Je ne dirai rien. Je te laisserai partir. Mais... tu me fais une petite gâterie. Tu es d'accord?
Eric, fais-vous de la tête. Ne peux pas refuser.
L'homme lui dit, avant, tu me donnes ta carte.
Eric hésite.
Allez, donne-la.
Eric la lui tend. L'homme la met sur l'ordinateur et
il note le nom, prénom, numéro d'identité de la personne. Puis, il la lui tend et lui dit, si tu ne viens pas tous les soirs au même endroit pour m'offrir mon petit cadeau, je te lance aux flics. Tu as compris?
Oui.
Allez, va-t'en. On ne peut pas ici. Attends-moi tout à l'heure à 20h là-bas. Et vas-y.
Eric sort de la pièce.
Il longe le couloir. L'homme lui crie, j'ai ta confession que tu as voulu le CD. Alors attention. Thank you. une fois dehors, Eric est furieux. Il ne veut pas qu'on l'oblige. Il ne veut pas être l'esclave de quelqu'un. Il est déjà bien avec la drogue. Et puis, comment fera-t-il? Comment fera-t-il? Lui, qui ne voit pas le jour et la nuit, qui ne sait jamais l'heure, etc. L'envie de colère de jeter son CD à la scène. Et puis non, ça lui a coûté suffisamment cher. Il va se le vendre un bon prix. Il ne sait même pas ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance. Il décide de le vendre de suite. Et demande aux jeunes qui ne sont pas intéressés par le CD.
Ça a marché! Allez, ça a marché!
La part disent que non, vous ne payez pas assez cher. Je représente le CD à une jeune fille qui ne connaît pas. Me le prendre. Je te fais un bon prix. C'est pour manger. Elle le regarde, le trouve mignon et a pitié de lui. Elle lui dit, je peux te donner que 50 francs. Il lui dit, bon, ça va. Elle lui donne sa carte et écrit sur l'écran la somme. Il lui tend le CD.
On est où?
Merci. Et elle s'éloigne. Françoise écoutera le CD ce soir avec Julien. Eric se dit que ça fait tout de même 50 francs.
Je sais pas.
Et il s'éloigne.
Le manteau et la touche qui va. Tu vois, c'est la porte juste à côté. Ça marche pas. C'est la porte juste à côté. Je veux pas que ça me fasse. Je suis pas. Je suis pas.
Il décide, c'est d'aller à son rendez-vous. C'est peut-être bientôt l'heure. Et puis, il commence à être fatigué. Le manque lui vient. À ce foutu rendez-vous. À tomber. Il arrive dans la rue, petite rue étroite. Se plaque contre le mur d'un vieil immeuble près de la porte d'entrée et attend. Thank you. plus en plus. Il fait très sombre. Il n'y a presque pas de passants. Il voit arriver son homme. L'homme traverse pour aller à lui. Tout moment où il traverse, verse. Une voiture a foncé sur lui et l'a renversé. L'homme reste à terre, couché, les bras en croix. Il ne bouge pas, la face contre le sol. La voiture a disparu. Eric court vers l'homme, se penche et voit son visage. Il voit qu'il est mort, les yeux ouverts, fixes. Eric se sauve en courant. Un peu plus loin, la voiture qui a créé l'accident s'est garée. Le temps de voir si l'homme était bien mort. S'est garée dans un tournant pour ne pas être vu. Puis, elle a repris sa route et disparu dans la nuit. Eric est protégé. Il est débarrassé de son maître chanteur. Les jours passent. Nathalie, un soir, rentre chez elle. Elle est allée chez une amie, passer la soirée à étudier un peu et discuter. Elle supporte de moins en moins d'être chez sa mère. Le regard de sa mère semble la juger. Et lorsqu'elle parle, c'est pour dire, sans les dire, des choses contre Gilbert et sa famille. Elle a assez de ses sous-entendus. aimerait que sa mère dise franchement ce qu'elle a sur le corps. Sa copine lui a dit de la quitter et de vivre seule. Et elle lui a dit, mais avec quoi? Je n'ai pas d'argent. Où veux-tu que je trouve du travail? Et ton ami ne peut pas te faire entrer dans l'entreprise de son père? Elle lui répond, non, ça jamais. Et puis tu vois tous les collègues de travail dire, c'est la copine du fils du patron, quelle horreur! Non, il vaut mieux, si je dois m'en aller, trouver du travail par moi-même. Mais avant que je m'en aille, il faut que j'en ai un. Sa copine lui dit, c'est pas de ma la veille. Non, c'est pas de ma la veille. Si au moins sa mère avait meilleur caractère. Elle marche dans les rues qui se vident peu à peu. Elle n'a pas peur. Et puis, il suffit de marcher d'un bon pas. Les magasins se ferment, les lumières deviennent rares. La rue va devenir, dans quelques heures, le terrain de chasse des hommes en noir. Bon. Un homme en noir qui d'un geste la plaque contre le mur. Et surprise. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi! Elle essaie de dégager, mais il la tient bien contre le mur. Que voulez-vous? Il lui dit, tu es Judith Poncet? Oui. J'ai un message pour toi. J'ai à te dire que tu dois laisser Gilbert tranquille. Il est trop bien pour toi. Il a une haute destinée. Et toi, tu n'es rien. Jamais il se mariera avec toi. C'est impossible. Alors laisse-le tranquille. Et l'homme s'en va, les mains dans les poches. Elle, essoufflée, se sauve. Dans les rues désertes. Elle se calme et marche normalement. Débouche d'une route transversale, un jeune homme. Il va vers elle. Elle sursaute. Il lui demande, tu pourrais me donner un petit quelque chose? J'ai faim. Elle lui tend sa carte. Il la met sur son écran. Elle y met une somme. Il la regarde drôlement. Comme s'il se moquait d'elle.
se sauve en courant. La rue est déserte. Elle continue à marcher. J'ai vu Serge. J'ai vu Serge. Ce n'est pas possible. Elle continue sa route. Elle arrive chez elle. Elle ouvre le portail. Longe la cour. Et entre dans la maison. Sa mère est en haut des escaliers, en robe noire, et lui dit: je ne savais pas que tu rentrais si tard le soir. Bonsoir, mère. Il ne fallait pas m'attendre. Elle monte les escaliers. Arrivée vers sa mère, elle lui dit: ne m'est rien arrivé. Ne peut rien m'arriver. On rencontre toujours les mêmes gens. Bonne nuit, mère. Et elle va rentrer dans sa chambre. Des rêves horribles. Elle rêve qu'elle est poursuivie dans la nuit, dans les rues désertes, et qu'elle rencontre des fantômes, des morts. Elle se réveille en sueur. Chose qui lui vient à l'esprit, c'est Serge. Serge, elle a vu Serge. Serge qui avait disparu à la mort de son père. Serge qui a peut-être tué son père. À la sortie de ses cours, lorsqu'elle retrouve Gilbert, une fois qu'ils se sont embrassés, elle lui dit: hier au soir, j'ai fait deux rencontres étranges. Je revenais d'une soirée avec une amie et j'ai été violemment interloqué par un homme qui m'a dit de te laisser tranquille. Et j'ai rencontré Serge aussi. Il m'a demandé de l'argent. Et bien, Serge, c'est pas possible. Tu dois te tromper. Non, je ne le pense pas. Il m'a bien regardé et semblait se moquer de moi. Gilbert lui dit, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Non, je ne le pense pas. Il lui dit, si c'est lui, nous le serons. Serge, vivant. Elle lui dit, et l'homme qui m'a interloqué, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi m'a-t-il dit que je ne devais plus te revoir? C'est ta famille qui lui a dit de me parler? Gilbert lui dit, non, sûrement pas. Sûrement pas, même ma mère n'aurait jamais fait ça. Elle lui demande, alors qui? Il lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu sais, certainement que mon père, comme il a beaucoup d'ennemis, peut-être, est-ce que c'est une personne qui veut nuire à mon père en cherchant à me nuire? Mais n'y pense plus. De toute façon, même s'ils nous disent de ne plus nous revoir, nous nous reverrons tout de même. Tu vois, je veux vivre, je veux faire ma vie avec toi. Et il l'embrasse. Les jours passent. Judith commence à travailler. Elle commence son travail de directrice des relations humaines, autrement dit chef du personnel. C'est elle qui embauche et désembauche les gens. Elle prend les dossiers de chaque personne de l'entreprise. En premier les cadres et ceux qui sont dans le siège. C'est le plus important parce que c'est la tête de l'entreprise. Elle regarde la fonction de chaque personne, leur âge et s'ils sont bien notés, ce qu'elle veut, c'est liquider le plus de personnes pour en remplacer par d'autres. Elle regarde d'abord toutes les personnes qui ont plus de 50 ans. Fait la liste de ces personnes et leurs postes. Puis, toutes les personnes qui ont eu, quel que soit leur âge, des maladies plus ou moins graves. Puis la liste des gens qui sont mal lotés ou ont eu une affaire, une grande faute vis-à-vis de la société. Une fois qu'elle a fait ces trois listes de noms, elle téléphone au secrétariat du président pour avoir un rendez-vous. Allô, je suis Judith, la directrice des relations humaines. J'aimerais avoir un rendez-vous avec le président. La secrétaire du président lui dit, demain, entre 10h30, vous avez une heure. Le président a rendez-vous sur un chantier à 11h30. Et ensuite, il déjeune avec les responsables du service d'hygiène de la ville de Paris. Puis, il va pour New York pour négocier un nouveau contrat. Comme vous voyez, il est très pris. Ça vous va, 10h30? Oui, merci.
lendemain matin, elle va à l'étage du président. Une hôtesse l'accompagne jusqu'au bureau.
L'hôtesse appuie sur le petit bouton. Le voyant rouge s'allume. Elle ouvre la porte et laisse entrer Judith. Le président se soulève et lui dit « Bonjour Judith, venez vous asseoir. » « Monsieur le président, elle va s'asseoir dans le fauteuil qui fait face au bureau. »
Il lui dit « Je vous écoute, Judith. » Elle lui dit « Eh bien voilà, monsieur le président, comme je vous l'avais proposé, j'aimerais, c'est rajeunir la société, mettre du sang nouveau. Et pour cela, il faut embaucher du personnel plus jeune, plus entreprenant, avec des idées neuves, une nouvelle, qui donnera une nouvelle dynamique. » Maurice lui dit, « Je sais, mais malheureusement, nous ne pouvons pas embaucher de nouveaux cadres. » Elle lui dit, « Oui, bien sûr, mais j'ai pensé que nous pourrions en remplacer certains et en mettre d'autres. Comment ? Eh bien, j'ai fait une liste de tous nos employés du siège et des cadres. Et puis, j'ai divisé cette liste en trois. Ceux qui ont plus de 50 ans, ceux qui ont eu une grave maladie, et ceux qui ont fait, disons, une faute grave. Pour faire partir ces gens-là, ceux qui ont fait une faute grave, on pourrait les mettre à la porte. Disons qu'ils pourraient faire une autre faute grave, et on leur dirait que leur faute est trop importante, qu'on ne peut pas les garder. Là, on pourrait les faire... Enfin, on pourrait les envoyer faire des cures de remise en forme par le groupe Mise en forme pour toi. Je vous assure, c'est qu'on ne les reverra plus. Quant à ceux qui sont près de 50 ans, eux, on pourrait leur proposer une pré-retraite sous surveillance médicale, je ne tournerai qu'un. Au bout de 6 mois, ils ne seraient plus là. Tous ces gens seront remplacés par des jeunes cadres pleins d'idées nouvelles. Qu'en pensez-vous ? Maurice lui dit, ça ne risque pas de coûter trop cher à la société. Non, parce que les nouveaux arrivants seront embauchés comme stagiaires, non rémunérés, pour apprendre leur nouveau poste pendant 6 mois, ce qui est le temps d'élimination de l'autre, de l'ancien employé, ce qui fait qu'en réalité, Vous n'aurez qu'un salaire à payer pendant 6 mois pour 2 employés. Cela va vous faire gagner de l'argent, bien au contraire. » Il lui dit, « Bien, faites ce que vous m'avez proposé et vous me donnerez, malgré tout, toutes les réclamations. Ne vous en faites pas, il n'y aura aucune réclamation. Bien. « Allez-y !» Elle lui dit, « Dans 8 mois, l'entreprise va changer du tout au tout. Vous allez voir. » Il lui dit, « Je vous laisse carte blanche. Merci. » Elle se lève et quitte le bureau. Judith envoie une lettre à tous ceux qui ont 50 ans et plus pour les convoquer individuellement à son bureau. Monsieur Durand, le chef comptable, un grand homme mince à cheveux grisonnants, lunettes métal distinguées, costume gris, a reçu sa lettre de convocation. Il est inquiet. Pan, qui prend dans la salle à manger avec sa femme, une grande dame mince, blonde, robe en laine beige, collier de perles, et lui dit « Je suis convoqué par la direction des relations humaines. Je n'aime pas ça. » Elle lui demande « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui dit « Rien, je t'assure rien. Mais on ne sait jamais avec eux. » Le jour de son rendez-vous, il va se présenter à la secrétaire des relations humaines.
Dans la lettre, j'ai rendez-vous, j'ai l'impression d'être nouveau.
La secrétaire prend la lettre, la lit et fait un numéro de téléphone.
Allô, Monsieur Durand est ici, madame. Je peux le faire entrer. Bien, madame.
Après l'avoir décroché, elle lui dit
« Madame vous attend. »
Elle se lève et va vers la porte avec lui. Elle appuie sur le bouton, le voyant s'allume. Elle ouvre la porte. Entrez. Il entre. Judith est à son bureau. Elle lui dit, venez vous asseoir, monsieur Durand. Il va s'asseoir en face d'elle. Durand est agacé. Il a l'impression qu'il y a une personne nouvellement arrivée. Il se dit que cette petite pourrait être sa fille. C'est une vraie peste. Je traitais comme ça, comme une moins que rien. Comme un moins que rien. Son père tout de même.
Je vous ai fait venir, c'est pour faire un peu un bilan sur votre vie professionnelle parmi nous, il lui dit.
Je le fais toutes les années, avec mon directeur de direction.
Elle lui dit, oui, mais là, ce n'est pas la même chose. C'est pour voir votre avenir, étudier, pour voir si l'on ne pourrait pas vous adoucir la vie. Vous avez 50 ans, je crois.
Oui, madame.
Oui, vous travaillez chez nous depuis 30 ans déjà.
Oui, et on n'a rien à me reprocher.
Elle lui dit, je n'en doute pas, mon cher monsieur Durand. Vous êtes entré dans notre maison à l'âge de 20 ans comme comptable et maintenant vous êtes directeur de la comptabilité. C'est bien.
Elle vient tout juste d'arriver et fait comme si elle était chez elle depuis toujours. Cette façon qu'elle a de parler, je lui dis deux mots, moi.
Il lui dit,
je suis rentré dans l'entreprise alors qu'il n'y avait que 3 ouvriers, et le patron et sa femme qui faisait la secrétaire. Nous avons tous travaillé, c'est-à-dire les 5, pour arriver à ce que nous sommes devenus. Et si vous êtes ici, dans ce poste, c'est grâce à nous. » Elle lui dit vexée.
« Je le sais très bien, mon cher bonbon Durand. C'est pour cela que la direction et moi avons pensé à vous remercier en vous proposant une chose fort intéressante qui va changer votre vie. Un mieux vivre. Vous êtes en âge où il faut penser à vous, à vous faire plaisir, à avoir plus de temps libre pour faire des choses que vous aimez, avoir le temps de vous remettre en forme. Pour cela, il faut une nouvelle répartition de votre temps de travail. Sûr que vous êtes d'accord avec nous. Voilà ce que nous vous proposons. C'est de travailler seulement 3 heures par jour, tout en étant payé comme si vous travailliez en temps complet. Mais attention, il faudra impérativement passer tous les mois une visite de santé au groupe Jeune Touriquin pour évaluer votre état physique. Vous pouvez rester dans la vie active ou être mis dans une maison de retraite. Êtes-vous d'accord ?
Monsieur Durand lui dit, « Ma foi, être payé à temps complet pour seulement 3 heures de travail, je ne peux pas dire non. »
Elle lui dit, « J'ai oublié, c'est de vous dire, c'est que sur ces 3 heures seront à former la personne qui vous remplacera à temps complet. » Alors, monsieur Durand, il lui dit,
« Je ne dis pas non. »
« Bien, je vais vous faire signer votre nouveau contrat de travail. » Elle sort 3 liasses de papier. Lui dit, « Approchez-vous. Vous allez me signer toutes ces pages en marquant « Lu et approuvé ». Lisez bien. »
Elle lui dit, « Il n'y a rien de spécial. »
Elle lui dit, « Juste une chose, rien du tout. Vous faites donc de vos organes un jeune tout pontois. »
Pourquoi ?
Elle lui dit, « Parce que vous comprenez, cette opération coûte cher. Donc nous l'avons fait sponsoriser par jeune tout pontois qui lui, il faut de la pub et des organes en plus. Alors, on marquera sur votre tombe don d'organes à jeune tout pontois. Vous êtes d'accord ? De toute façon, une fois que l'on est mort,
oui. »
Et il signe. Le soir, en rentrant chez lui, il raconte tout à sa femme et lui dit, « Je dois passer une visite de préparation pour voir si tout va bien. » Le lendemain matin, il va à la clinique Jeune Tout Pontois. On lui passe une visite complète, sang, radio, analyse d'urine, etc., réflexe, yeux. Tout est marqué sur un fichier ordinateur. On lui passe aussi des tests d'intelligence pour le cerveau. À la fin, le médecin regarde les résultats. Chaque organe, chaque coin de la personne est noté par sa qualité pour voir si c'est bon ou pour plus tard pour le don d'organes ou pour la peau
ou le cerveau. Ne garderont que ce qui est bon. Le reste ira en bouillie, en boîte de caniveau, au chien. Ils voient aussi le temps maximal de vie pour éviter trop grande dégradation. Si on veut des organes bons, il y en a pour 8 mois. Le médecin note qu'il faut qu'il soit en phase finale avant 6 mois. En phase finale avant 6 mois. Après les examens, il est reçu par le médecin dans son bureau de la clinique.
Entrez. Il entre. Venez vous asseoir.
Est un homme de 30 ans, châtain, grand, mince, sympathique, costume gris, sous une blouse blanche ouverte. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, plus en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.